Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, l'un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne, et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Cet épisode de l'Évangile, ici dans Saint-Marc, se situe pile poil, si j'ose dire, au milieu de l'Évangile, comme une sorte de pivot entre 2 versants. Et Jésus s'arrête un moment avec les disciples, c'est comme s'ils allaient faire une randonnée, c'est très à la mode aujourd'hui, et Jésus pose des questions pendant la randonnée, n'est-ce pas? Il fait un petit sondage, il n'y avait pas encore de choses très élaborées comme aujourd'hui, et il demande qu'est-ce que disent les gens sur moi, et les disciples rapportent les bruits qu'ils ont entendus, mais ce que Jésus veut, c'est qu'ils se prononcent eux-mêmes, alors il leur pose, comme il nous la pose à nous aussi, la question, mais pour vous, pour toi, qui suis-je? Et c'est là qu'il y a un certain silence, mais que Pierre, au nom des 12, va prendre la parole et va dire, tu es le Messie. Ce qui n'était pas rien, c'est véritablement une affirmation forte, le Messie attendu par Israël depuis si longtemps. Et Pierre, vraiment, a cette motion intérieure de pouvoir dire la foi. C'est encore aujourd'hui le charisme de Pierre, le charisme du successeur de Pierre, dire la foi juste. Alors Jésus, sachant bien toutes les ambiguïtés qu'il y a autour de ce titre de Messie, et comment dans la tête des Juifs à l'époque, il y avait vraiment des représentations d'un Messie politique qui délivrerait du joug des Romains et apporterait l'abondance matérielle, Jésus va dire quel type de Messie il est. Et donc, pour la première fois, nous dit saint Marc, Jésus est très clair en disant que cette aventure qu'ils vivent ensemble va mal finir. Jésus va être tué, va souffrir, va être rejeté, et il finira sur la croix. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Ils n'ont pas entendu la fin. Ils n'ont pas entendu la résurrection. Ça, c'est très clair qu'ils n'ont jamais vraiment reçu le second message sur la résurrection. Mais ils ont bien entendu le premier, et Pierre notamment, qui est profondément choqué et qui va tirer Jésus par la manche, l'emmener dans un petit coin et commencer à le secouer un peu en lui disant « Mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin, ça ne va pas, c'est pas possible. » Voilà, le grand écart, au fond, entre les idées qu'on a dans la tête et puis la réalité concrète de ce que Dieu fait. Le grand écart. On emploie aujourd'hui des mots du genre réduire la fracture. Réduire la fracture sociale. Ici, il s'agirait de réduire la fracture spirituelle, peut-être, ou évangélique, je ne sais pas. Mais voilà, Jésus va s'y employer en disant à Pierre, il faut que tu quittes tes fausses idées, passe derrière moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes, mais ne sont pas celles de Dieu. Au fond, il y a un grand écart. Nous devons toujours nous méfier de nos pensées. Nous devons toujours essayer de, comment dire, de demander à d'autres de discerner avec nous et de faire vérifier par d'autres si ce qu'on pense est juste ou pas juste. Parce que quelquefois, on peut se faire des scénarios, avoir des idées fausses, souvent. Et donc, à plusieurs, on se trompe moins, déjà. C'est quelque chose. C'est le principe du discernement dans l'Église, d'avoir un accompagnateur spirituel qui nous aide à discerner les émotions véritables du Saint-Esprit et puis les idées fausses qui se trimballent là-haut et qu'on se fait, mais dans lesquelles on se complaît parce que généralement elles sont tout à fait avantageuses à notre égard. Donc on s'y sent bien et c'est des scénarios plutôt positifs. Quelquefois ils sont négatifs et mauvais, mais voilà. Alors Pierre est cet homme qui à la fois dit la foi véritable et puis en même temps s'aperçoit que il a lui-même des tas de choses à réajuster dans sa vie parce qu'il n'est pas au point et il n'a pas vraiment compris. Comme quoi, une chose est de pouvoir poser un acte de foi, autre chose est de comprendre avec sa tête. Ce n'est pas exactement la même chose. Car la foi est véritablement un mode de connaissance et de préhension de Dieu qui est au-delà de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent, mais ça veut dire que c'est bien au-delà encore de l'intelligence. Et donc Pierre s'aperçoit qu'il faut qu'il réaligne son intelligence sur sa foi et qu'il a du chemin à faire. Ça va lui prendre énormément de temps. On s'aperçoit qu'au moment où Jésus est arrêté à la Passion, il n'a toujours pas compris et il va donc renier Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il s'écroulera complètement et qu'il s'apercevra qu'effectivement, il n'a jamais accepté cette messianité précise de Jésus. Et nous pouvons être exactement dans le même contexte, dans le même état, c'est-à-dire nous pouvons penser avoir la foi et puis finalement n'avoir jamais accepté certaines choses que Dieu nous propose ou que l'Église nous propose et être tout à fait en rétention. Je pose 3 mais j'en retiens 2. Il faut toujours faire une petite réserve parce que on ne sait jamais, mais c'est très commun ça, on est tous comme ça. Et il nous est demandé de véritablement adhérer à des pensées qui sont celles de Dieu et qui nous dépassent, dont nous ne comprenons pas le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est la foi véritable qui suppose un cheminement de mort à nous-mêmes, d'une certaine façon, de dépossession. Et Pierre, véritablement, a dû s'écrouler et voilà, pleurer devant sa... la façon dont il s'était enfermé, souvenez-vous, au moment du lavement des pieds, tu ne me laveras pas les pieds, il n'est pas question que le Messie s'abaisse à ce point, voilà. Et vis-à-vis de Dieu, nous sommes un peu pareils. Alors peut-être cet évangile peut-il nous interpeller pour nous poser la question, qu'est-ce que j'ai à transformer dans ma vie pour mieux répondre au Seigneur, pour mieux aimer le Seigneur, pour mieux accepter ce que le Seigneur me propose? Par exemple, on est souvent tenté de dire « Jésus, oui, mais l'Église, pénible, hein. L'Église, non. » Donc de faire une sorte de dissociation ainsi entre Dieu et son Église, entre Jésus et son Église. Et on est souvent tenté de critiquer abondamment l'Église qu'on trouve en dessous de tout, pas conforme à ce qui devrait être. Et qu'est-ce que c'est que ce pape âgé qui marche avec une canne et qui, etc. On a toujours, n'est-ce pas, quelques critiques bien envoyées. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est bien cela, adorer. Adorer, c'est accepter que Dieu ait raison et que nous ne comprenions pas vraiment pourquoi il fait de telles choses dans l'histoire et dans nos vies. Demandons cette grâce de pouvoir ainsi mieux marcher sur le chemin de la renonciation à nous-mêmes. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera.